Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous sommes toujours à voir ce que nous devons faire dans la lutte actuelle. C'est très intéressant d'ailleurs parce que cette lutte qui devient plus âpre et dont nous voyons bien, parce que vous êtes nombreux à vous rendre compte qu'il y a quelque chose de satanique, quelque chose de pas normal dans ce qui nous est imposé actuellement. Or, c'est justement ce que la Providence voulait, que nous nous rendions compte que nous sommes depuis fort longtemps déjà soumis à la pression satanique du monde sans Dieu et anti-Dieu, et que les conditions plus difficiles qui nous sont faites nous oblige à nous réveiller et à crier vers Dieu, à nous appuyer sur Dieu et à découvrir les grandes promesses, les grandes bénédictions qui seront données à ceux qui, justement, auront réagi comme il le faut, auront porté leur croix, auront été fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, à la Très Sainte Vierge, et les auront placés au centre de leur vie. Je vous parlerai aujourd'hui de l'importance de la prière, et je commencerai en vous racontant l'histoire de Jacob et Ésaü, qui est l'annonce de la condition chrétienne, et particulièrement de la lutte de Jacob contre l'ange, qui est l'annonce de la puissance de la prière, de la croix et de la foi. Tout d'abord donc, un petit résumé sur l'histoire. L'opposition entre Jacob et Ésaü est l'annonce de la condition des chrétiens et de l'Église. Vous savez qu'Ésaü était l'aîné, mais il vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, et cela est l'annonce du peuple choisi par Dieu, le peuple aîné, choisi par Dieu, mais qui préfère les biens d'ici-bas aux biens divins. À cause de cela, Dieu choisit Jacob pour recueillir l'héritage divin. Évidemment, cela entraîne une lutte farouche d'Ésaü contre son frère, donc du peuple initialement choisi par Dieu, contre l'Église et contre les chrétiens. À cause de cela, Jacob est obligé de fuir, et dans sa fuite, il est réconforté par la vision d'une échelle qui relie la terre au ciel. C'est l'annonce de l'incarnation. Jésus-Christ descend du ciel par cette échelle jusqu'à la terre et il nous prend avec lui et il nous fait remonter avec lui jusqu'au ciel. Sur cette échelle, il y avait en effet des anges qui montaient et descendaient. Et les pères de l'Église, alors pour cela évidemment, pour toutes ces interprétations, je vous prends les pères de l'Église, je n'inventais évidemment rien de moi-même. Je vous recommande au passage les commentaires de Don de Montléon sur l'Écriture sainte, qui sont un vrai trésor. Dans son livre Les Patriarches, il commente le passage que je vous donne. Cette vision de l'échelle sur laquelle descend Jésus-Christ, et pas seulement Jésus-Christ, évidemment, tous ceux qui l'accompagnent, c'est-à-dire l'Église, les évêques, les prophètes en premier, et puis remontent les bons chrétiens. Cette vision fut un grand réconfort pour Jacob, et surtout, elle lui donna une grande vie intérieure. Déjà, il était un homme de vie intérieure. Mais une grande vie intérieure, Jacob a vécu vraiment dans une grande union à Dieu, quoiqu'il continuât à travailler sur la terre, et il travailla chez son oncle Laban, mais il vivait déjà dans la contemplation des choses de Dieu. Dieu lui demande de rentrer dans son pays parce que Jacob est le fils de la promesse et tout cela doit être dans le plan de Dieu jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Mais Jacob sait très bien qu'Ésaü ne va pas le laisser faire, va venir à sa rencontre, qu'il risque d'y avoir une lutte probablement sanglante, et Jacob craint. Comme il a reçu l'ordre de Dieu, il rentre, mais en même temps, il craint. Pourquoi le bon Dieu laisse-t-il cette crainte? Parce que Dieu, en nous donnant l'ordre de faire quelque chose, ne nous affirme pas qu'il aplanira les difficultés, il nous demande de prendre les moyens pour réussir ce qu'il vient de demander. Et Dieu sait très bien que la crainte va nous être bénéfique. Évidemment, une mauvaise crainte peut nous écraser, mais une bonne crainte nous poussera justement à faire comme Jacob, nous le verrons, et comme Dieu incite Jacob à faire, c'est-à-dire à nous appuyer sur Dieu. Jacob va commencer déjà par faire ce qui dépend de lui. Il va essayer d'amadouer son frère en envoyant ses propres serviteurs près de lui avec de beaux et riches cadeaux pour essayer d'apaiser la colère de son frère. Les envoyés reviennent auprès de Jacob en lui disant « Ton frère avance vers toi, marche vers toi, pour ne pas dire marche sur toi, avec une troupe de 400 hommes. » Jacob est encore plus dans la crainte et à cette occasion, c'est la deuxième étape, il fait une très belle prière à Dieu. « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. » Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers moi, ton serviteur. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et ça serait très grave, puisque parmi les enfants, il y a celui de qui viendra le Christ. Et le Christ descend d'Abraham, Isaac, Jacob, et puis nous verrons des fils de Jacob. « Toi, tu m'as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. » Ça, c'est l'héritage, la promesse qui a été faite à lui et à Abraham, l'Église, c'est l'Église. Donc, Jacob se rend bien compte, il sait que ce qui est en jeu à travers lui, c'est le salut de l'humanité par l'Église et par Jésus-Christ. Il fait donc ce qu'il peut, puis il prie, et il fait passer à sa femme, à ses enfants et à ses serviteurs, il fait passer le jabok, enfin le ruisseau, le petit cours d'eau qui était là, et lui demeure seul. C'est alors qu'un ange qui a forme d'homme le provoque en combat singulier. Le combat va durer toute la nuit, et l'ange, bien qu'il soit envoyé de Dieu et qu'il soit tout puissant devant un homme, l'ange n'a pas la victoire. Malgré tout, pour montrer qu'il pourrait l'avoir s'il le voulait, il blesse Jacob à la cuisse, au nerf sciatique. Autrement dit, on se rend bien compte que, par providence divine, Jacob a une certaine supériorité sur l'ange. Jacob répond à l'ange, « Oui, mais bénis-moi d'abord, donne-moi d'abord ta bénédiction. » L'ange donne la bénédiction, il l'appelle Israël, celui qui a vu Dieu. C'est vraiment une bénédiction surnaturelle, une bénédiction divine, voir Dieu. C'est, on peut dire, l'entrée dans le ciel en avance, la vision du ciel à l'avance. Ce qui est le cas de tous les chrétiens qui, par la foi, connaissent beaucoup plus de choses qu'ils ne croient sur le ciel, sur Dieu, et quoi que ce soit encore voilé, vivent véritablement dans la joie des saints du ciel. Le premier effet de cette bénédiction, c'est que Dieu adoucit le cœur d'Ésaü, qu'il, loin de lutter contre son frère Jacob, Au contraire, il se réconcilie avec lui. Les autres bénédictions, c'est que Jacob a déjà une anticipation des joies du ciel, et puis la bénédiction la plus importante, de lui, de sa race, viendra le Messie qui sauvera le monde. Les pères de l'Église voient dans cet épisode non seulement l'annonce de nos conditions de vie, mais également une leçon sur l'importance de la prière. Par conséquent, trois points dans ce sermon. Premièrement, la nécessité de la prière. Deuxièmement, les fruits de la prière. Et troisièmement, quelques applications pratiques à la situation présente. Premièrement, la nécessité de la prière. Il est évident que la prière n'a pas pour but d'influencer le cœur de Dieu, d'influencer Dieu ou de lui faire changer d'avis. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jacob, tout en n'étant pas vaincu par l'ange, n'arrive pas non plus à le vaincre. Elle a pour but, au contraire, de faire comprendre que la vie chrétienne est une lutte, de faire prendre conscience de nos faiblesses et même de notre incapacité totale, et troisièmement, de nous faire saisir que Dieu intervient en notre faveur dès que nous entrons par la prière dans la lutte du Christ contre Satan et que nous portons sa croix. Cette lutte, la vraie lutte, c'est d'abord celle du Christ, et nous devons entrer dans cette lutte, et en entrant dans cette lutte, nous recevons les bénédictions de Dieu. Tous les pères de l'Église, et nous avons ça dans la liturgie de la Semaine Sainte également, nous disent que l'homme ayant été fait relativement fort, mais ayant préféré sa propre force à la force de Dieu, a été puni par le péché et les conséquences du péché, c'est-à-dire qu'il est l'esclave du démon et que lui qui était si fort est maintenant réduit à presque rien et ne peut plus accomplir le bien sans l'aide de Dieu. Les pères de l'Église nous montrent la faiblesse du Christ sur la croix, faiblesse apparente bien entendu, faiblesse humaine d'une certaine manière, pour nous montrer que la faiblesse a été plus forte que la force de Satan, que la faiblesse de Dieu a été plus forte que la force du monde. De même, Satan a été humilié d'avoir été vaincu non pas dans un combat angélique, une grande lutte dans le ciel qui est à sa mesure, mais d'avoir été vaincu sur terre par une simple croix, un simple homme qui était Dieu, bien entendu, mais qui, pour mieux l'humilier, s'est incarné. Et Satan est humilié dès que nous-mêmes, nous ressemblons à Jésus-Christ, nous nous faisons faibles avec Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous portons notre croix et nous comptons sur la puissance de Dieu au lieu de compter sur notre propre puissance. Et donc, des pères de l'Église nous disent que cet épisode, cette lutte de Jacob contre l'ange, est tout d'abord l'annonce de l'incarnation. L'annonce de ce que je viens de vous dire, Jésus-Christ qui descend sur terre en se faisant faible. Nous entrons dans cette faiblesse, nous luttons. Par la lutte, il ne s'agit pas de lutter contre Dieu, il s'agit d'entrer dans cette lutte que Dieu a voulu pour nous. Cette lutte dure toute la nuit, nous le verrons. À la fin de la nuit, c'est-à-dire à la fin de l'épreuve, quand le bon Dieu veut faire finir l'épreuve, il donne sa bénédiction, nous demandons la bénédiction et il nous la donne. Il y a évidemment des conditions pour que cette prière soit telle que Dieu la veut. Tout d'abord, elle doit être faite avec foi. Il est évident, c'est une évidence. Tout le langage que nous tient l'Écriture sainte est un langage de foi. Il s'agit évidemment d'une prière divine. Nous entrons dans quelque chose de divin. Elle doit être faite en vue du salut de l'âme et donc principalement pour obtenir la vertu et la grâce. Ce n'est pas à nous de déterminer de quelle manière nous aurons la victoire, si nous aurons la victoire par la disparition de la tentation, de l'épreuve. Et Dieu fait cesser l'opposition de Satan et de ses sbires envers nous, ou si nous avons la victoire en supportant l'épreuve qui demeure, mais en la supportant pour une plus grande gloire de Dieu, dans une plus grande union à Dieu. Il arrive que la prière donne quelque chose d'immédiat, à savoir la défaite immédiate de nos ennemis, mais pas toujours. Et ça, c'est important de le noter, parce que sinon on se décourage. Ce que nous avons en vue dans la prière, c'est d'être fidèles à Jésus-Christ dans la lutte. Elle doit être faite, la prière, avec confiance, et elle doit être faite avec persévérance. C'est pourquoi la lutte de Jacob avec l'ange a duré toute la nuit, et non pas simplement un quart d'heure comme cela aurait suffi pour faire la preuve qui était à faire. Deuxième partie de ce sermon, les fruits de la prière. Elle donne la victoire sur les ennemis du Christ. Mais elle la donne, je vous l'ai dit, soit en faisant cesser leur opposition, et à ce moment-là, il n'y a plus de lutte, elle reprendra plus tard, hein, soit en nous donnant de supporter cette épreuve dans une plus grande union à Dieu. C'est pourquoi Dieu donne un nouveau nom à Jacob, il s'appellera désormais Israël, c'est-à-dire celui qui a vu Dieu, une plus grande union à Dieu. C'est ce qu'on voit à Lourdes. Pour quelques miracles de guérison, il y a énormément plus de miracles, de grâces spéciales pour porter chrétiennement la maladie et même profiter chrétiennement de la mort. La prière que nous faisons est toujours profitable à l'Église, soit parce qu'elle nous donne une victoire divine sur nos ennemis qui du coup reculent, soit parce qu'elle nous donne une plus grande union à Dieu et fait avancer le royaume du Christ, le royaume spirituel du Christ sur la terre, malgré la continuation de la lutte des ennemis contre Dieu. Troisième partie, application à la lutte des derniers temps et à nos conditions présentes de lutte. Vous savez, mes bien chers frères, que toutes les épreuves de l'Église sont une annonce de la dernière grande lutte finale, et nous entrons actuellement dans une sorte de répétition par avance de la grande lutte que l'Église aura à mener contre l'Antéchrist. C'est une répétition, ce n'est pas encore la lutte finale. Or, vous savez bien que cette lutte dans laquelle nous sommes nous est faite par Satan, en tout premier, avec ses anges, mais qu'il a comme complices ceux qui se disent les héritiers spirituels du peuple qui a refusé le Christ et qui poursuivent la lutte contre le Christ et contre l'Église. Dieu ne nous demande qu'une chose aujourd'hui, nous remettre entre ses mains, nous unir à sa passion et à sa croix, ce qui est la vraie lutte que nous avons à mener. Refuser de céder devant les ennemis de Dieu. Cela va supposer de notre part beaucoup de courage, parce que nous sentons bien que, pour l'instant, Dieu ne veut pas nous donner comme bénédiction la disparition de nos adversaires et la suppression de la lutte. Au contraire, il veut nous demander, il nous demande de passer une nuit entière, une nuit d'épreuve, et une nuit c'est long, et lui il n'y a pas de jour, dans la nuit il n'y a pas de lumière, on est un petit peu dans le désarroi, il nous demande de passer une nuit entière à lutter. La disparition des ennemis, ce sera pour le petit matin, c'est-à-dire pour plus tard. Mais Dieu se charge de la suite, il se charge de nous guider, de nous protéger, et grâce à toutes ces épreuves que nous aurons supportées vaillamment, nous aurons la joie, en haut du ciel, de découvrir tout d'abord la conversion d'une grande part des adversaires du Christ. Vous savez qu'à la fin du monde, les ennemis de Jésus-Christ, le peuple ennemi de Jésus-Christ, se convertira. Quant à ceux qui refusant de se convertir, quels qu'ils soient d'ailleurs, à quelque peuple qu'ils appartiennent, voire même à ceux qui étaient héritiers des bons chrétiens et qui auront peut-être lâché dans la lutte, ceux-là, eh bien, nous aurons la joie de voir leur défaite définitive et ils seront envoyés en enfer, ce qui sera un triomphe éclatant de la puissance et de la justice de Dieu après des siècles et des siècles de miséricorde. Je vous rappelle que la Sainte Vierge est honorée par l'Église du titre de forte comme une armée rangée en bataille. Prenez la mitraillette à 150 coups, c'est-à-dire le rosaire. Chaque Ave Maria est une arme puissante pour nous donner la victoire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.